Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Et on a très très peu de cours actuellement sur le leadership. Ça commence à venir, mais il y a vraiment de très très bonnes choses dans la parole de Dieu. C'est ce que nous étudions. Le monde séculier, c'est-à-dire le monde non chrétien, c'est un peu emparé de ce genre de choses et ils font des séminaires à droite et à gauche. Mais nous avons besoin dans les églises d'entendre de tels messages parce que ça nous stimule, ça nous montre un certain nombre de choses sur la qualité de notre leadership. Maintenant, tout n'est pas dans seulement le leadership, il faut le cœur de Dieu, qu'on soit bien d'accord, mais le leadership est quand même quelque chose d'indispensable. En tout cas, comprendre les principes, les lois du leadership. Est-ce que vous pouvez vérifier physiquement et non pas par la foi vos téléphones portables, s'il vous plaît? Merci. Ne vérifiez jamais un téléphone portable par la foi. N'assumez pas qu'il est éteint, mais regardez avec les yeux. Là, vous ne marchez pas par la foi, vous marchez par la vue avec les téléphones portables. D'accord? Merci. Ok, parce que je ne veux pas être dérangé pendant ces sessions de cours. Vous savez, moi je vous donne, maintenant c'est à vous de savoir avec quel sérieux vous voulez recevoir les choses. C'est ça qui est important. Moi mon rôle c'est de donner. Maintenant, d'investir en vous. Maintenant, ce que vous allez en faire et comment vous prenez cette connaissance, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir comment vous voulez gérer ce que le Seigneur vous donne au travers de ce cours. Voilà, nous en sommes dans la loi de l'intuition. Donc, nous en sommes dans la 8e loi qui est la loi de l'intuition et nous avons vu qu'il est très important de lire dans les situations, d'avoir ce qu'on appelle de l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui est dans votre esprit parce que vous êtes né de nouveau et Dieu vous donnera, si vous apprenez à écouter votre nature spirituelle, des solutions divines aux problèmes humains. Je vous rappelle qu'un bon leader n'est pas quelqu'un qui va tourner autour des problèmes. Ça ne sert à rien. Les leaders qui tournent autour des problèmes n'apportent aucune solution et n'avancent pas et fatiguent le peuple et finalement amènent, ni plus ni moins, le peuple à aller chercher d'autres leaders. Si tu te plains parce que les gens partent de ton leadership, réfléchis. C'est toi le problème. Non, mais c'est eux, ils sont méchants, ils sont rebelles, ils sont. Bah oui, qui as-tu attiré? Ce cours est là pour nous remettre en question, pour nous montrer que c'est à nous de changer. Si tu changes à l'intérieur, ça va se manifester à l'extérieur. C'est pas compliqué. Le plus gros travail, c'est à l'intérieur de toi. Si tu réalises ça, tu vas réaliser beaucoup de choses. Tu vas arrêter de blâmer les autres, de blâmer le diable, de blâmer tel truc, tes circonstances, tes machins. Non, non, arrête tout ça. Change. Et prends tes responsabilités. Si tu échoues, si tu n'arrives pas, alors que le Seigneur t'a parlé, c'est que c'est toi le problème. C'est toi qui n'as pas su appliquer un certain nombre de lois. C'est pas pour accuser, c'est pour vous faire comprendre. C'est tout. D'accord? C'est pas du tout mon. C'est pas l'objet de vous dire ça, ce n'est pas de mettre une condamnation. C'est simplement pour vous aider à vous remettre en question en vous donnant les clés pour que vous puissiez réussir ce que le Seigneur vous a dit de faire. C'est tout. Parce que ce sont des secrets de la vie avec le Seigneur. Ce sont des secrets du leadership que je suis en train de vous donner ici. Donc le leader intuitif, lui, il sait, il a quelque chose de spécial. Il a un radar spirituel qu'il a développé. On a vu l'histoire de Jéthro et de Moïse. Moïse est en train de s'épuiser à vouloir donner toutes les décisions, à vouloir faire tout le boulot de A jusqu'à Z. Et Jéthro arrive et lui dit, mais mon vieux, si tu continues comme ça, tu vas finir dans la tombe, entre guillemets. Tu vas t'épuiser complètement. Non, arrête ça. Parce que Jéthro avait lu la situation. Et il apporte une solution toute simple. Il dit, voilà, maintenant tu vas organiser, tu vas déléguer. Et Moïse le fait. Et vous voyez l'humilité de Moïse aussi. Il y aurait beaucoup à dire sur son humilité. Lui qui était en train de diriger un peuple de 2 millions de personnes. Lui qui vivait dans des miracles, des révélations, qui entendait la voix de Dieu tous les jours, qui avait fait les choses les plus extraordinaires. Il y a son beau-père qui débarque et il va écouter son beau-père. Waouh, quelle humilité! plutôt que de lui dire, écoute, j'ai trop. T'es bien gentil, mais à l'époque, tu m'as appris qu'une seule chose. D'abord, tu m'as donné ta fille. Bon, ok, d'accord. Mais tu m'as appris simplement à garder des brebis. Il aurait pu lui dire ça. Mais il n'a pas dit ça. Il a saisi l'opportunité de ce conseil intuitif de la part de son beau-père. Et ça, c'est bien. Ça montre vraiment une humilité chez Moïse, alors qu'il était déjà très loin dans le leadership. Mais il avait fait un certain nombre de bêtises. Entre guillemets, il faisait des erreurs, comme tout leader d'ailleurs. Alors, nous avons vu que les leaders intuitifs savent lire de manière divine dans les situations et dans les personnes. Et on a vu qu'il y a 5 choses qu'ils savent faire. Lire les situations, donc répondre aux situations. Ensuite, lire la façon de ne pas s'écarter de la vision originelle. Ils savent faire attention de ne pas, en fait, faire qu'une situation s'envenime et pourrisse, et au bout d'un moment, amène une catastrophe. Ensuite, ils savent lire les ressources disponibles. Ils savent comment ressourcer la vision. Et là, ils font attention et ils cherchent les ressources à portée de main. Ici, c'était les gens. Ensuite, ils savent lire les personnes. Ils savent mettre les bonnes personnes au bon endroit, selon leurs compétences. Et 5e chose, ils savent lire sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils connaissent leurs points forts et connaissent aussi leurs points faibles. Alors, grand 3 maintenant, notez qu'un leader intuitif va valoriser les autres. Un leader intuitif va valoriser les autres. Et Jethro va voir les choses par les lunettes du leadership et il va mettre en valeur les autres. Il va mettre en valeur les autres. Jethro, en fait, va mettre en valeur Moïse, parce que Moïse était en train de s'épuiser et se concentrait seulement sur le conseil et le jugement, alors qu'il y avait d'autres choses à faire. Donc, en fait, il va aider Moïse à prendre de la valeur vis-à-vis du peuple. Mais aussi, il va valoriser le peuple, parce que le peuple ne va pas souffrir de son leader qui risquait de mourir d'épuisement. Et en même temps, il va permettre à des gens qui faisaient rien et qui avaient des compétences de pouvoir avoir des délégations, avoir une autorité déléguée. Donc un leader intuitif va toujours regarder les différents potentiels et mettre en valeur les gens. Et ça, c'est important. Alors, comment est-ce qu'ils font ça en général? Les leaders qui ont de l'intuition, numéro un, ils voient les choses et les gens différemment. Les leaders intuitifs, donc, numéro un, voient les choses et les gens différemment. Parce que vous savez, tout le monde peut voir les problèmes, mais c'est seulement le leader intuitif qui va apporter les solutions et les corrections. Parce que voir des problèmes, tout le monde est capable de dire « Ah, il y a un problème là, il y a un problème, d'accord. » Mais le leader intuitif, il va dire « Ok, je lis la situation et je sais ce qu'on va faire. » Vous voyez? Ça, c'est important. Moïse, lui, il voyait quoi? Moïse voyait le fardeau du peuple. C'est-à-dire, il fallait que le peuple soit jugé, il y avait des histoires entre eux, il fallait s'en occuper, etc., etc., etc. Bon, d'accord. Mais c'est Jethro qui va voir le problème de Moïse. En fait, Jethro, dans la situation, Moïse, lui, il essayait de résoudre un problème en essayant d'aider les gens, de juger tout le monde, de s'occuper de tout le monde. Mais un bonhomme tout seul ne peut pas tout faire. Jethro, lui, dans la situation, il connaissait le problème du peuple. C'était qu'il y ait les jugements qui soient rendus. Mais il a vu que ce n'était pas bien géré. Il a vu quoi? Il a vu le problème du leader. Il a vu que ce n'était pas un problème de jugement du peuple. Il a vu que c'était un problème de leader, qu'en fait, Moïse ne savait pas déléguer. Et c'est là où il a apporté la solution. Vous voyez? Donc un leader intuitif, c'est ce qu'il sait faire. Il voit les choses et les gens différemment des autres. Le peuple ou quelqu'un, même un leader, peut voir, un leader non intuitif, peut voir un problème et essayer d'apporter des solutions. Mais le leader intuitif, lui, il va apporter la vraie solution. C'est ça la différence. Parce qu'il lit et il voit les choses d'une façon différente. Numéro 2, les leaders intuitifs voient l'image globale. Voient l'image globale et ils amènent la direction à prendre. Ils voient l'image globale et ils amènent la direction à prendre. Jethro, dans ce cas-là, voyait que l'image globale, c'était quoi? Ça allait que le peuple, s'il perdait Moïse, allait courir vers une catastrophe. Vous voyez, un leader intuitif, il voit la globalité. Il ne voit pas au jour le jour. Moïse voyait au jour le jour, là. Il voyait problème, problème, problème. Il faut qu'il soit jugé. Il faut qu'on tranche dans les jugements, etc. Donc, je vais le faire. Je vais m'en occuper. Et ça partait d'un bon sentiment. Vous voyez, vous pouvez être un leader non intuitif qui a un bon cœur, mais vous ne faites pas les choses correctement. C'est pas le bon cœur est important, c'est une fondation. Mais savoir faire les choses correctement, être intuitif, c'est autre chose. C'est un complément. Le bon cœur, c'est la fondation. Quand les gens ont un mauvais cœur, qui veulent exploiter le peuple, etc., alors là, il n'y a rien à faire. Mais il y a des gens qui ont vraiment un bon cœur, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas les situations globales. Là, ici, Moïse, Jéthro a vu tout de suite que si Moïse continuait comme ça, ça allait être vraiment terrible pour le peuple. Vous voyez, le leader intuitif voit de façon globale. Numéro 3, ils voient clairement dans les situations et ils apportent la structure. Ils voient clairement dans les situations et ils apportent la structure. Ça, c'est important. Ici, Jéthro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une structure de leadership. Donc, il voit clairement dans les situations, les leaders qui ont de l'intuition, et ils apportent la structure. Jéthro a apporté une structure de leadership pour que tout le monde s'épanouisse finalement. À la fois Moïse serait déchargé, et à la fois chaque personne qui va prendre une responsabilité, chaque personne qui prend une responsabilité, va s'épanouir. En fait, un leader intuitif, il crée une structure pour que le leadership puisse s'épanouir. Ça, c'est important. Une structure pour que le leadership puisse s'épanouir. Il n'est pas là en disant, bon, il y a un bonhomme qui fait tout, et les autres, vous servez à rien, asseyez-vous et taisez-vous. Non, il crée une structure où il délègue et où chacun peut commencer à s'épanouir. Et globalement, c'est tout le leadership de l'organisation qui s'épanouit. Vous voyez ? Ça, c'est le leader intuitif qui crée ça. Ensuite, il voit le relationnel. Numéro 4. Il voit le relationnel. Ça aussi, c'est important. Un leader intuitif, il crée des bonnes relations entre les gens qui servent. Vous savez, quand vous dirigez une organisation ou une société et que les gens se tirent dessus, c'est très mauvais. C'est toute l'organisation qui en pâtira, qui aura des problèmes. Donc en fait, il voit le relationnel, il crée des réseaux de relations. Un leader intuitif, c'est ce qu'il fait, c'est ce que Jéthro a fait. Il a créé des bonnes relations, il a créé ces relations entre les gens pour que les gens servent et que Moïse soit soulagé. Donc un bon leader intuitif, lui, il repère des gens, il les met ensemble, il crée ces bonnes relations entre ces personnes qui vont servir, et tout se passe bien. Mais il travaille relationnellement. Il ne travaille pas seulement sur les compétences. Numéro 5, il crée la confiance. Il crée la confiance. Et ça, c'est important. Le leader doit créer la confiance d'abord en lui-même et dans son peuple. Dans lui-même et dans son peuple. Vous créez la confiance en vous-même et dans le peuple. Là, Moïse se sentait beaucoup plus en confiance, il était déchargé, et le peuple aussi commençait à lui faire confiance parce qu'il voyait qu'il y avait de l'organisation qui était faite. Il y avait une solution qui était là. Parce que vous savez, le peuple n'était pas dupe. Quand Moïse devait recevoir vers la fin de la journée les gens, il devait être là, c'est quoi votre problème? Qu'est-ce que vous avez? Ah oui, ah, j'en ai eu 10 comme ça avant vous, 50 comme ça avant vous. Vous voyez, au bout d'un moment, les gens voient que le leader, il n'en peut plus. Que le leader risque de craquer. Que le leader risque de faire une crise. Parce qu'il est complètement, complètement épuisé. Quand un leader est épuisé, c'est extrêmement mauvais. C'est extrêmement mauvais. Il faut que le leader sache vraiment se gérer. C'est très important. Et on ne peut pas se gérer si on n'est pas un leader intuitif. Parce que quand on est dans le leadership, les tâches sont énormes. La vision est toujours très grande. Et là, tu es là, tu travailles. Travailler, oui, il le faut. C'est important. Il y a une valeur au travail. Mais je vous l'ai dit précédemment, il faut travailler intelligemment. De manière productive. Rien ne te sert de courir dans tous les sens. Alors que des fois, tu as des solutions à t'apporter où tu peux préparer des gens, déléguer, trouver des solutions simples parce que tu vois les situations, tu sais ce qu'il faut faire, plutôt que d'aller courir partout et t'épuiser. Et finalement, tu ne bats que de l'air et tu remues de l'air. Vous savez, remuer de l'air, ça ne sert pas à grand-chose. Comme un boxeur, vous savez, quand ils s'entraînent, les boxeurs, ils frappent dans l'air. Ils ne font pas grand-chose. Ils s'agitent seulement et ils se fatiguent. Alors, nous allons voir le numéro 4, quatrième chose. Vous pouvez, grand 4, hein, c'est grand 4 ici maintenant. Grand 3, c'était un leader intuitif, va valoriser les autres. Grand 4, vous pouvez grandir dans votre intuition. Vous pouvez grandir dans votre intuition. Vous pouvez grandir dans votre intuition. Là aussi, c'est une école. Savoir lire dans les situations, c'est une école qui vous amènera de la réussite, mais qui vous amènera aussi dans l'échec. Il y a des moments où vous allez échouer parce que vous penserez que c'était ça qu'il fallait faire. Et vous êtes lamentablement planté. Ça, ça arrive. Mais peu importe. C'est une école. N'ayez jamais peur de vous tromper. Quand tu es leader, tu vas te tromper. C'est normal. Mais au moins, tu vas retirer des leçons sur pourquoi tu t'es dit « Non, je pensais que c'était vraiment comme ça qu'il fallait gérer la situation et je me suis trompé. » Et là, tu prends des leçons, mais tu vas grandir. On ne grandit pas sans être tombé par terre. Tous, on s'en souvient même plus d'ailleurs. Tous parmi nous, quand nous étions petits bébés, il y a un moment où on a commencé à marcher sur quatre pattes, là, à courir dans tous les sens. Mais ça, il faut demander à papa et à maman qui vont nous raconter ça. Et un jour, tu as voulu te faire comme les autres. Tu t'es levé sur tes deux jambes et tu as commencé à bouger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avant que tu saches marcher, tu es tombé un certain nombre de fois. Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne marches pas? Non. Parce que tu t'es lancé, tu as voulu marcher en tant qu'enfant, en tant que bébé. Et nous qui avons eu des enfants, nous avons tous vu nos enfants faire ça. Et puis au bout d'un moment, paf, tu tombes par terre et tu rigolais parce que tu étais sur tes deux pattes comme ça. Ah ah ah, tu étais tout content. Et d'un seul coup, tu t'es lâché et plouf, tu es tombé et ça s'est terminé. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais c'est pas pour ça que tu as dit jamais plus je me tiendrai sur mes deux jambes. Non. Donc c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des moments où on va se casser la figure alors qu'on était tout content qu'on pensait réussir. Et plaf, on va tomber. Mais c'est pas grave. Tu vas te relever. Tu vas te relever. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir dans notre intuition? L'intuition, il faut l'affiner. Il y a six choses à faire. D'abord, la parole de Dieu, la méditation de la parole, ça c'est important. Six choses que nous devons faire pour développer notre intuition. Nous nourrir régulièrement de la parole de Dieu, ça c'est important. Se nourrir de la parole. Se nourrir de la parole, numéro un. Numéro deux, apprendre à écouter notre esprit. Ça, c'est toute une école. Apprendre à écouter ton cœur, ton esprit, là où Jésus habite. Si tu fais ça, tu vas découvrir réellement qu'il y a des informations internes dans ton cœur, dans ton esprit, qui vont contredire parfois des informations externes. Tu vas être là et tu vas dire « Non, non, je sais qu'on doit faire ça. » Et les autres vont te dire « Ah, attention !» Tu risques de tomber, tu risques d'avoir des problèmes. Et tu vas le faire parce que tu sais dans ton cœur, tu sens une promptitude de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et à ce moment-là, tu vas réussir. Numéro 3, ne pas craindre d'échouer. Ne pas craindre d'échouer. Ça, c'est la troisième chose pour gagner dans l'intuition. Comme ça, tu apprends à être sûr que quand Dieu te parle ou Dieu ne te parle pas. Parce que souvent, c'est une école qui est difficile pour nous. Des fois, on croit que le Seigneur nous a parlé et il ne nous a pas parlé. Mais peu importe, tu dois tester pour être sûr, ça c'est Dieu qui me parle, je sais comment il me parle. Et il y a des moments où tu diras, j'ai pensé que le Seigneur m'a parlé, mais c'était faux. Sache le reconnaître, demande pardon et recommence. Ça c'est normal. La voix de Dieu, c'est quelque chose qu'on apprend à écouter. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Ça c'est clair. Les gens qui disent, moi, je connais la voix de Dieu et je ne me trompe jamais, c'est faux. C'est faux. Mais il faut apprendre, ça se développe. Ça, c'est quelque chose qui se développe. C'est le développement de notre nature spirituelle. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais j'ai vraiment pas le temps. Ensuite, numéro 4, apprendre à créer des bonnes relations de confiance avec ceux que nous dirigeons. Apprendre à créer des bonnes relations de confiance avec ceux que nous dirigeons. Numéro 4, apprendre à créer une bonne relation de confiance avec ceux que nous dirigeons. Ça, c'est important. Parce que les autres aussi ont l'Esprit de Dieu en eux. Et parfois, ils vont te dire des choses et tu diras, tiens, c'est bizarre, je ressentais aussi dans mon cœur, mais je me demandais si ça venait du Seigneur. Et là, tu commences à écouter, et parfois, Dieu te parle au travers des autres. Et ça, c'est important. Donc, apprendre à créer une bonne relation de confiance avec ceux que tu diriges. Numéro 5, recevoir une vision et l'accomplir au premier niveau, c'est-à-dire savoir comment les choses marchent avec Dieu. Recevoir une vision et l'accomplir déjà au premier niveau. Recevoir une vision et l'accomplir au premier niveau. Ça veut dire commencer à comprendre comment Dieu fonctionne. Parce que ça, c'est le problème aussi de beaucoup de chrétiens. Dieu leur donne des visions, Dieu leur parle, et ils ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Alors ils se lancent tête baissée, ils prennent telle décision, tel truc, et paf, ils se cassent la tête. Et se retrouvent dans des problèmes. Et ils sont déçus. Ils disent, mais Mais je ne comprends pas le Seigneur. Seigneur, tu m'avais parlé. Oui, mais la façon dont tu voulais faire les choses, c'est toi qui as voulu faire les choses comme ça. Ce n'était pas les choses que Dieu voulait que tu fasses comme cela. Donc il faut que tu apprennes comment Dieu fonctionne. Moi, j'apprends beaucoup sur comment Dieu fonctionne. Plus je réussis les choses, plus je commence à comprendre comment il fonctionne. Finalement, après 30 ans de dur, on veut tellement réaliser les choses que Dieu nous a dites. Vous savez, quand Dieu nous parle, on est comme, entre guillemets, hein, je dis bien, drogué. On est là, on dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Alors on va dire à tout le monde, le Seigneur m'a dit ça, le Seigneur m'a dit ça. On court partout. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas comment Dieu va vouloir qu'on réalise ça. Et c'est là où souvent il y a un problème. On est là, on fonce et on fait un Ismaël, comme Abraham, où on se retrouve 40 ans dans le désert, comme Moïse. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu réaliser les choses comme nous avons pensé qu'elles devaient être réalisées par Dieu, par nos propres forces. Ensuite, numéro 6, faire réussir les autres. Ça aussi. Le sentiment de réussite pour les autres est quelque chose de très important. Plus l'autre a réussir, plus tu verras que tu auras du flair. Parce que Dieu va commencer à voir en toi quelqu'un qui veut aider les autres. Il va voir en toi un canal. Donc obligatoirement, il va te parler davantage. Et il va voir que tu as un cœur pour les autres. Les gens qui ont des cœurs que pour eux-mêmes, ce sont des égoïstes. Ce sont des leaders qui ne réussiront jamais. Des gens qui veulent construire que leurs empires. Moi, c'est moi qui suis à la tête de tout ça. Ça, c'est vraiment pervers. Et ces gens-là, ils n'iront pas loin. En tout cas, ils feront semblant de monter très haut et d'un seul coup, paf, ils vont se retrouver par terre. Parce que ce n'est pas un leadership selon le cœur de Dieu. Neuvième loi, la loi du magnétisme. Neuvième loi, la loi du magnétisme. La loi du magnétisme, neuvième loi. Premier principe sur la loi du magnétisme, c'est vous attirer ceux qui vous ressemblent. Premier principe ici sur la loi du magnétisme, vous attirez ceux qui vous ressemblent. Ça, nous allons le voir. Nous attirons ceux que qui nous ressemblent. Vous savez que les voleurs attirent qui ? Ils attirent des gens honnêtes ? Non. Les menteurs, ils sont entourés de qui ? Les menteurs. Les hypocrites sont entourés de qui ? Les hypocrites. On pourrait prendre exemple sur exemple. Les intellectuels attirent qui ? Les intellectuels. Les gens simples attirent qui ? Des gens simples. Absolument. Des gens qui échouent tout le temps attirent qui ? Des gens qui échouent tout le temps. Vous savez, c'est pas compliqué. Il y a des choses qui sont simples, mais parfois on a besoin de les entendre. Regarde autour de toi. Regarde qui est autour de toi et je te dirai qui tu es. Ouh là là. Regarde qui est autour de toi et je te dirai qui tu es. Les jeunes attirent qui ? Les vieux attirent qui ? Vous voyez, ça c'est une tendance naturelle, relationnelle. Ce que nous sommes, nous attirons. Si tu es une personne d'excellence, tu ne vas pas attirer les médiocres. Les médiocres fuiront. Par contre, tu vas attirer des gens qui cherchent l'excellence ou qui sont excellents. Vous voyez ? Donc on attire ce que nous sommes. Nous attirons ce que nous sommes. Si tu n'es pas satisfait de ton entourage aujourd'hui, de qui tu attires ou des personnes que tu diriges, pose-toi la question, qui es-tu ? Quel type de personne es-tu ? Et tu t'apercevras tristement que ce que tu es, tu l'attires. Ah, mauvaise nouvelle pour certains, mais non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Encore une fois, je vous donne toutes ces choses-là, non pas pour condamner qui que ce soit. Parce que parfois, vous savez, on fait des choses et on ne réalise même pas que nous sommes dans des... en fait, on est en train d'attirer des lois, on est en train de fonctionner dans des lois qui attirent des choses dans notre vie et on s'en plaint et finalement, c'est nous-mêmes qui les attirons. Un jour, Dieu m'a parlé sur ce sujet. Il m'a dit, tu es comme un aimant. J'ai dit, un aimant, j'avais pas vraiment compris au départ. Et Dieu m'a montré cette loi d'attraction dans beaucoup de domaines. Tu peux attirer la bénédiction, mais tu peux attirer les problèmes aussi. Tu peux attirer les pires des personnes comme tu peux attirer les meilleures personnes. Que nous sommes des aimants. Si tu comprends que tu es un aimant, c'est-à-dire que tu as un coefficient, ce qu'on appelle d'attraction. Plus tu es leader, plus tu vas attirer les gens. Plus ton coefficient d'attraction peut être important et plus tu peux bien l'utiliser ou mal l'utiliser. Mais partout, nous sommes sujets aux mêmes lois. Il y a une loi d'attraction en tant que leader. Ce que tu es, tu l'attires. Donc pour voir l'image que tu es, regarde qui y a autour de toi. Si tu as des gens qui ne sont pas clairs autour de toi, ça veut dire que tu n'es pas clair. Change simplement. Je te provoque pour que tu changes, c'est tout. Pour que tu dises finalement quel type de personne j'attire dans ma vie. Je veux changer et je vais attirer les personnes dont j'ai besoin. Parce que vous voyez, les leaders, tous les leaders aiment bien une chose, avoir des gens de qualité autour de soi. C'est normal. T'es leader, t'as une vision. Tu dis, moi, j'aimerais bien avoir, par exemple, un pasteur dit, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui dirige la louange et qui nous amène au ciel dans la présence de Dieu. Oui, c'est bien. Mais est-ce que toi, t'es quelqu'un qui a une relation très forte avec Dieu? Pourquoi est-ce que tu n'attires pas ce type de personne? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'une personne vient et dirige la louange, elle est obligée de repartir et qu'il y a un conflit, par exemple? Ou quelqu'un qui est autour de toi, il y a des problèmes avec, tout le temps. Vous savez, c'est comme les gens... Il y a des gens qui se font virer de leur boulot. Alors, ils vont voir le pasteur et ils disent, « Pasteur, vraiment, hein, le diable m'a fait un sale coup. J'ai été viré. » Ok, une fois. Ça peut arriver. Des gens qui vraiment sont mal intentionnés, un sale coup. D'accord. Et puis, 6 mois plus tard, la personne vient te revoir encore. « Ah, pasteur, vraiment, les gens sont méchants. Hein. Tous les patrons que je rencontre sont méchants. » Et il se fait encore virer. Et une troisième fois, il se fait encore virer. S'il y a des problèmes récurrents dans ta vie, sache une chose, si tu vois des problèmes qui reviennent d'une façon récurrente, c'est-à-dire qui reviennent régulièrement dans ta vie, ça veut dire que c'est toi le problème. D'accord ? Que des fois tu aies des attaques, c'est normal. Qu'il y ait des obstacles, c'est normal. Mais quand il y a des choses qui viennent régulièrement dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Je me souviens un jour d'un pasteur qui disait la chose suivante. Il me disait, j'ai une chrétienne, c'est pas un pasteur d'ici, c'est un pasteur qui vit en Europe. Il me dit, j'ai une chrétienne qui est venue me voir un jour et qui disait, oh vraiment pasteur, priez pour moi, j'ai besoin de rencontrer un fiancé, quelqu'un de bien. Et elle disait, ça fait au moins 5 fois que je rencontre des gens et vraiment ces garçons-là, c'est terrible. Et le pasteur lui a dit, écoute ma sœur, si tu attires ce genre de personnes, c'est que tu as un problème. Et c'est clair. Si à chaque fois tu tombes sur des types bizarres, c'est que tu dois être bizarre quelque part. Soyons clairs. Et vice versa. Si à chaque fois en tant que garçon, il y a des filles qui te tournent autour et qui sont bizarres, c'est que toi-même t'es bizarre. Soyons clairs. Arrêtons de nous voiler la face. Soyons clairs. Nous attirons ce que nous sommes. Si tes relations ne sont pas des relations de qualité, ça veut dire que tu n'es pas une personne de qualité. Selon Dieu, je te parle. Que quelqu'un dise Amen. Je vous mets en face de vos réalités. Je suis sujet à la même loi. Nous sommes tous sujets à la même loi. Si tu n'arrives pas à avoir des gens sous ton leadership qui sont des gens de qualité, c'est que tu as un problème. Si ce n'est pas des gens intègres, c'est que tu n'es pas intègre. Si ce n'est pas des gens loyaux, c'est que tu manques de loyauté. Si ce ne sont pas des gens fidèles, c'est que tu n'es pas fidèle. Souvent, c'est le cas, frères et sœurs. Je ne te dis pas que tu ne vas pas rencontrer des gens qui essayent de te manipuler. On est bien d'accord. Mais si c'est la majorité des gens et qu'au bout d'un certain nombre d'années, tu ne perces pas à attirer les bonnes personnes, c'est que tu as un problème. Je ne te parle pas que ça va venir au bout de 2 jours, qu'on soit bien d'accord. Je parle au fil des années. Là, on parle du moyen et du long terme. Arrête de regarder au jour le jour ta vie. Regarde avec une perspective de l'avenir. Donc, ce que tu attires, c'est ce que tu es. La plupart du temps, on va attirer les mêmes personnes qui ont les mêmes qualités que nous. Alors, c'est bien. Mais le problème, c'est que, par exemple, les enseignants, nos amis ont tendance à être des enseignants. Moi, j'essaye d'avoir des évangélistes comme amis. J'en ai quelques-uns, mais c'est difficile à les attirer. Vous voyez, parce que je suis principalement enseignant et pasteur, et on a tendance, par exemple, dans l'église, à faire venir des gens qui nous font des séminaires d'enseignement. Et là, je suis en train de changer. Je suis en train de dire, non, j'ai besoin d'évangélistes dans l'église. J'ai besoin de gens qui viennent et qui nous fassent de l'évangélisation avec signes, prodiges et miracles. Et de plus en plus, je cherche à créer des relations avec de bons évangélistes. Parce que j'en ai besoin. Parce que c'est un complément à notre ministère. Vous voyez ? Donc chaque fois, vous pouvez avoir des gens comme ça, que vous attirez des gens différents. Mais ça, c'est difficile, parce qu'au début, on ne va attirer que des gens qui nous ressemblent. Que des gens qui nous ressemblent. Et malheureusement, ça va limiter notre leadership. Et si tu veux une équipe gagnante, il faut que tu attires des personnes différentes et devenir meilleur. Donc des personnes différentes, et pour ça, il faut que tu deviennes une meilleure personne, selon Dieu, bien sûr. Parce que je peux vous dire une chose, il y a des gens parfois qui ont de grandes qualités et qui n'arrivent pas à devenir de grands leaders. Parce qu'ils ne savent pas utiliser cette loi de l'attraction. Et c'est dommage. Parce que des fois, on voit des gens qui sont très doués, mais qui n'arrivent pas, qui ne percent pas. Ou alors, leur leadership, c'est de la dent de scie. Il y a des moments où ils font des grands événements, ça marche bien, et après ils sont par terre. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à attirer les personnes de qualité autour d'eux, parce qu'eux-mêmes doivent s'améliorer. Si tu changes à l'intérieur, tu vas voir plein de choses se créer autour de toi. Tu vas créer l'atmosphère. Si tu appliques les lois spirituelles, divines, tu vas créer l'atmosphère qui va attirer plein de bénédictions et de faveurs de Dieu autour de toi. Il y a des choses pour lesquelles tu ne prieras même plus, qui viendront comme conséquence de ce que tu es à l'intérieur. Parce que tu es quelqu'un qui marche selon Dieu, dans une relation avec Dieu, et d'un seul coup, tu croises, les gens viennent vers toi, plutôt que toi en train d'aller chercher partout des personnes. Tu dis simplement, oh, j'aimerais bien avoir ça et ça, j'ai besoin de telle et telle personne, j'ai besoin de telle et telle, et d'un seul coup, plaf, ça te tombe dessus. Pourquoi ? Parce que tu as attiré, tu as mis en place des lois d'attraction. Ça, c'est important. Alors, numéro 2, les leaders, notez que les leaders n'attirent pas toujours ce qu'ils aimeraient avoir autour d'eux. Les leaders n'attirent pas toujours ce qu'ils aimeraient avoir autour d'eux, mais plutôt ce qui leur ressemble dans certains domaines. Nous allons voir quelques vérités concernant l'attraction d'un leader, la loi de l'attraction d'un leader. Quelques vérités. 5 vérités, en fait, sur la loi de l'attraction d'un leader. 5 vérités, donc, sur la loi de l'attraction des leaders. Numéro 1, chaque leader a une mesure de magnétisme, donc d'attraction. C'est numéro 1. Des vérités concernant l'attraction. Donc, si tu es leader, tu as une mesure de magnétisme. T'es peut-être un petit aimant, entre guillemets, mais on verra que tu peux devenir un gros aimant et attirer beaucoup. Mais c'est clair, quand vous regardez les leaders, vous avez des leaders qui attirent beaucoup, des leaders qui attirent peu. Mais chaque leader a au moins une mesure d'attraction quelque part. Numéro 2, le magnétisme d'un leader peut affecter toute la personnalité des suiveurs. Le magnétisme d'un leader peut affecter toute la personnalité des suiveurs. Donc le magnétisme que tu as, l'attraction, le pouvoir d'attraction que tu as, que les gens te suivent, eh bien ça va affecter les gens, positivement ou négativement. Vous pouvez avoir un excellent impact alors que vous dirigez des gens, comme vous pouvez les amener à faire la pire des choses. C'est comme l'argent, le magnétisme c'est comme l'argent. Avec de l'argent, tu peux financer le royaume de Dieu, mais tu peux aussi vivre une vie de débauche. C'est toujours avec de l'argent, parce que l'argent a un pouvoir. Ou tu peux corrompre des gens, acheter des choses dont tu n'as pas le droit légalement. Tu peux faire beaucoup de choses avec de l'argent. Tu peux faire le meilleur et tu peux faire le pire. Et dans le magnétisme, c'est la même chose. Numéro 3, le magnétisme n'est pas bon ou mauvais en soi. Mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Le magnétisme n'est pas bon ou mauvais en soi, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Donc en fait, c'est quelque chose que Dieu te donne, cette capacité. Maintenant, il y a des leaders païens qui attirent beaucoup de gens et qui font des fois des choses horribles. Hitler a tué toute une génération. Il a tué les autres, mais il a tué aussi toute la génération de jeunes Allemands. Donc le magnétisme n'est pas bon ou mauvais en soi, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que c'est un certain pouvoir, une capacité que tu as entre les mains en tant que leader, et il va falloir que tu amènes les gens qui te suivent dans le meilleur, et non pas dans le pire. Ensuite, numéro 4, tous les leaders attirent des personnes qui leur ressemblent. Mais les leaders qui se sentent en sécurité, tous les leaders, numéro 4, attirent des personnes qui leur ressemblent, Mais les leaders qui se sentent en sécurité attirent en plus, tous les leaders attirent des personnes qui leur ressemblent, mais les leaders qui se sentent en sécurité attirent en plus des suiveurs qui les complémentent. Ça, c'est important. Tous les leaders attirent des personnes qui leur ressemblent, mais les leaders qui se sentent Tous les leaders attirent des personnes qui leur ressemblent, mais les leaders qui se sentent en sécurité attirent en plus des suiveurs qui les complémentent. Donc ça, c'est très important aussi. Vous vous rappelez, on a dit qu'on attire ceux qui nous ressemblent principalement. Maintenant, seuls les leaders qui se sentent en sécurité, c'est-à-dire qui n'ont pas peur au niveau de leur leadership. Vous vous rappelez du leader sécure et du leader insécure, on en a parlé. Les leaders qui sont en pleine sécurité, eux, vont attirer des dons complémentaires. Donc des gens qui, forcément, ne leur ressemblent pas, forcément, mais au contraire, qui vont avoir des dons qui vont leur permettre, justement, de multiplier leur leadership, d'avoir un rayonnement sur leur leadership très important. Mais les gens qui ne se sentent pas en sécurité, qui veulent tout contrôler de A jusqu'à Z, ça c'est très mauvais. Le leader qui va absolument contrôler tout, qui fait confiance quasiment à personne. Ça, c'est des gens qui n'attireront que des gens qui leur ressemblent. C'est très mauvais, ça. Et malheureusement, il y a un certain nombre de gens qui sont chrétiens, que ce soit des leaders qui sont dans le ministère, ou des businessmen, ou des gens qui ont des postes de direction ou autres, qui se sentent toujours insécurisés. Quand tu te sens insécurisé, tu vas attirer des personnes aussi d'ailleurs insécurisées. Et avec les mêmes problèmes que toi, ou les mêmes mauvais traits de caractère, et peut-être aussi de certaines qualités que tu as. Par contre, quand tu es un leader où tu te sens sécure, là, très facilement, des gens qui ont des dons différents de toi, mais complémentaires, vont venir te suivre. Et tu auras à l'intérieur toute une pépinière de gens que tu vas, en qui tu vas investir et qui aideront à la vision et qui auront des dons très différents des tiens. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas compliqué, c'est la loi de l'attraction. Numéro 5, dernière remarque sur la vérité concernant l'attraction. Numéro 5, le magnétisme d'un leader n'est pas quelque chose de statique, c'est-à-dire quelque chose qui ne bouge pas. Le magnétisme d'un leader n'est pas quelque chose de statique, c'est-à-dire quelque chose qui ne bouge pas, mais au contraire, ça doit bouger, ça doit s'améliorer. Le magnétisme d'un leader n'est pas quelque chose de statique. Donc le magnétisme d'un leader peut s'améliorer, c'est ça, ça vous devez le comprendre. Donc ça peut s'améliorer, ça peut être développé. Et justement, d'abord, il faut observer, il faut dire qui est-ce que j'attire? Pourquoi? Pourquoi est-ce que mon leadership n'attire pas plus de personnes? Et là, tu commences à te remettre en question, puis tu te corriges. Parce qu'on est là pour se corriger. Celui qui dit, moi, je ne me corrige pas, moi, je sais tout, moi, c'est quelqu'un qui n'avancera jamais dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne réussira jamais dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes qui seulement pensent qu'elles savent tout, ou alors je n'ai pas besoin des autres. Ça, c'est le discours qu'on entend chez certains leaders. Je n'ai pas besoin des autres, seulement Dieu va tout me révéler. Oui, mais les autres aussi ont l'Esprit de Dieu en eux. Et parfois, ils peuvent te dire des conseils que tu as besoin de suivre. Vous savez, moi, par exemple, j'ai été élevé en France, et en France, on ne nous a pas du tout donné cette culture qu'on a ici en Afrique. En Afrique, souvent, on va te dire, non, il faut que tu cherches des conseils, il y a les familles qui font des conseils, etc., etc. Et ça n'existe plus dans nos pays occidentaux. Et je vous assure, quand on est là, par exemple, quelqu'un qui veut se marier, si les parents ne sont pas d'accord, on se marie, on s'en fout. T'es là, t'es pas là, je m'en fous, je me marie. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, vous faites ça, vous faites couper la tête. Bon, et des fois, il y a de l'abus de l'autre côté, où les familles font des pressions gigantesques parce que le garçon a de l'argent. Donc la fille doit se marier, ça c'est très mauvais aussi. Mais d'un autre côté, la Bible nous dit qu'on réussit avec un bon nombre de conseillers. Vous voyez? Et parfois, les autres vous diront, ça, c'est pas bien ce que tu fais. Ça, faut que tu changes. Et des fois, on se regarde et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et des fois, tu as des collaborateurs, tu leur dis, dites-moi la vérité, est-ce que j'ai pas un problème ici? Et à ce moment-là, le leader commence à dire, mais effectivement, apparemment, il faut que je change ça. Vous savez, des fois, écouter les autres, c'est très utile. Je ne dis pas qu'il faut toujours écouter les autres. Mais il ne faut pas non plus avoir la tête dure en disant « Je ne marche que par le Saint-Esprit. » Ces gens-là, moi j'en connais. Ils ont la vie dure avec les autres. Ils ne veulent jamais changer. Ils se trompent tout le temps. Ils font beaucoup d'histoires sur des gens relationnels. Et il suffit que ces personnes-là soient vraiment vivent dans une onction assez importante ou fassent des miracles, fassent des prodiges, etc. comme Dieu m'utilise comme ça, tout ce que je fais d'autre, Dieu l'approuve. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que rappelez-vous qu'on ne construit pas sa vie sur des dons. On construit sa vie sur le caractère de Dieu. Et il y a beaucoup de leaders, parce qu'ils réussissent, parce que des fois même ils ont du monde dans leurs églises, ils disent « Personne n'a quoi que ce soit à m'apprendre. Hein. On verra dans 10 ans. On verra dans 10 ans. » Et je peux vous dire qu'il y en a plus d'un qui pleure après. Alors, on va regarder un peu numéro 3. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour attirer? Il y a 4 choses importantes qui permettent l'attraction d'un leader. 4 choses importantes à faire pour que des gens nous suivent. Numéro 1, une vision commune. Une vision commune. Personne n'est attiré vers un leader si ce leader a une vision qui n'intéresse pas la personne. Vous suivez quelqu'un parce que cette personne a une vision qui vous intéresse. Donc c'est la première chose. On est attiré vers un leader parce qu'on a une vision commune. Il partage sa vision et d'un seul coup, ça parle à notre cœur. Si tu es dans une église, tu n'es pas là par hasard. C'est parce que quelque chose t'a attiré là. Ce qui est triste, c'est que des fois, il y a des chrétiens, on leur demande pourquoi vous êtes là. Bah, parce que je suis là. Pauvres gens. Numéro 2, une attente réciproque. Une attente réciproque. Il y a quelque chose. En fait, le visionnaire, on attend qu'il nous amène quelque part si on le suit. Quand tu suis un leader, un visionnaire, tu attends quelque chose de sa part. Mais lui, il attend aussi que tu t'impliques dans sa vision, vous voyez. Donc il y a une réciprocité. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes businessman, si vous avez des sociétés, ne soyez pas comme les païens. Apprenez à impliquer les gens, mais en même temps, soyez généreux. Parce que si quelqu'un, tu as un bon directeur, tu as quelqu'un, un bon employé, qui t'amène de la prospérité, qui t'amène vraiment à bien marcher, mais montre-lui vraiment, donne-lui, fais-lui profiter des bénéfices. Je t'assure, à ce moment-là, c'est une attente réciproque. Lui, il voit que tu le mets en valeur et il travaille bien. Et toi, ce que tu veux, c'est qu'il bosse bien et même si tu es absent, que ton directeur, il fasse comme si tu étais là. Vous voyez, c'est réciproque. Il y a une attente réciproque quelque part. Vous voyez ? Numéro 3, un investissement réciproque. Un investissement réciproque. En fait, j'ai déjà débordé sur le troisième point, excusez-moi. Un investissement réciproque. Tu vas passer du temps à investir et la personne va répondre à cet investissement. Dans ton organisation, dans ta société, partout où tu es. Il y a quelque chose qui doit être fort. Et numéro 4, un engagement. Un engagement réciproque. L'engagement, ça c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on va faire du chemin avec la personne. Quand on suit un leader juste pour prendre ce qui nous intéresse pendant 6 mois, c'est un leadership qui vaut rien. Si le leader cherche des gens juste pour les exploiter, mais qu'il n'est pas prêt à investir chez eux, à les suivre et à les amener au plus haut niveau de ce qu'ils attendent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'engagement. Ça veut dire que les suiveurs se servent du leader et le leader se sert des suiveurs. Et ça, c'est mauvais. C'est un très mauvais leadership. Tu dois investir. Investir, ça prend du temps. Tu formes, tu prépares. Tu sais que cette personne a tel et tel appel et tu vas tout faire pour qu'elle puisse rentrer dans sa destinée. Mais lui aussi, pendant ce temps-là, il va te servir. Il va être loyal, il va être fidèle. Il va te suivre. Il va faire ce que tu lui demandes. Donc il y a cet engagement réciproque à moyen et long terme. Il y a des gens qui ont fait des équipes gagnantes toute leur vie. Par exemple, si vous regardez les vidéos de Benny Hinn, vous voyez qu'il y a une dame qui joue à une espèce d'orgue. Cette dame, vous regardez des vidéos d'il y a 20 ou 30 ans, elle était déjà là. Et il y a d'autres personnes, le gars qui dirige la chorale là, il a été amené par Benny Hinn il y a bien des années, dans les années 80. Au Seigneur, c'était un ancien drogué. Et il dirige toujours la chorale. 30 ans plus tard. Vous voyez, ça c'est de l'engagement vis-à-vis du leader. Et ça c'est important. Quand il n'y a pas d'engagement, bon, ben on ne va pas aller loin. On ne va vraiment pas aller loin. C'est important ça aussi, vous voyez. Parce que souvent les gens, ils disent oui, on est ensemble. On est ensemble, mais c'est juste avec la bouche, entre guillemets. Ils ne sont pas vraiment ensemble avec le cœur. Ils ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout, dans les bons et dans les mauvais moments, avec le leader, à réaliser la vision. Parce qu'il y aura un prix à payer. Nous verrons que c'est une loi aussi. Numéro 4, grand 4. Maintenant, c'est grand 4. On a vu grand 3. Comment attirer. Grand 4. Et après, on va faire une pause quand on aura fini cette loi. Il y a grand 4 et grand 5. Et puis après, on fera une petite pause. Numéro 4, notez que le leadership est d'abord qui vous êtes avant d'être ce que vous faites. Le leadership est d'abord qui vous êtes avant d'être ce que vous faites. Et ça aussi, c'est un piège que l'on voit. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le leadership, c'est agir de telle ou telle façon en vue d'accomplir des objectifs. Ça, c'est un niveau qui est pauvre en leadership. Ce n'est pas ça le leadership principalement. Le leadership, ce n'est pas seulement ce que vous faites, c'est ce que vous êtes en tant que leader. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas avoir un très haut degré de leadership si vous n'êtes pas une excellente personne. Si vous avez plein de trucs cachés, plein de problèmes cachés qui sont là, que vous ne réglez pas au fur et à mesure de votre leadership, tôt ou tard, ça sera des obstacles à votre leadership et au potentiel de votre leadership. Vous pourrez avoir des résultats, mais si vous êtes quelqu'un, par exemple, vous commencez à faire plein de choses, mais que vous avez un problème d'orgueil, que vous voulez construire votre empire sur le dos des autres, ça ressortira. Au début, les gens vont se focaliser sur votre réussite, vos résultats, et ils vont s'impliquer avec vous, mais après, ils vont découvrir que vous êtes quelqu'un qui construisait votre empire, et qu'à partir du moment où ils vont commencer à voir certaines choses qui ne vont pas chez vous et qui vont vous le dire, vous allez les écarter. Et c'est là où les gens vont réaliser qui vous êtes vraiment. Donc, il faut vraiment faire attention. Veillez à votre personne. Devenez quelqu'un qui est meilleur. Si tu veux attirer des gens de meilleure qualité, deviens quelqu'un de meilleur. Deviens quelqu'un de meilleur. Plus tu fonctionnes dans les mentalités de Dieu, les valeurs de Dieu. Parce que vous savez, Dieu fonctionne avec des principes, des lois spirituelles, mais Dieu fonctionne aussi avec des valeurs de caractère. Ça, c'est quelque chose qui est important. Notez que Dieu fonctionne avec des principes, mais il fonctionne aussi avec des valeurs. Les valeurs, ce sont des qualités de caractère. Donc, il y a les lois spirituelles, mais il y a aussi les qualités de caractère de Dieu. Et il veut que nous comprenions les deux. Il y a des lois du leadership, mais ces lois du leadership fonctionnent avec quoi ? Les qualités de caractère, les valeurs de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Donc vous voyez, si vous avez des bonnes valeurs, mais que vous ne mettez pas en action les lois, vous allez échouer. Si vous n'appliquez que les lois en vue de réussir pour vous-même, entre guillemets, vous dites que c'est pour Dieu, mais en fait, c'est votre empire que vous construisez, ça veut dire que vous n'avez pas les valeurs. Vous voyez la différence ? Les valeurs, c'est le caractère. Les lois, c'est les principes que tu vas utiliser pour pouvoir réaliser la vision en tant que leader. Et les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Dans l'attraction, bien sûr, tu peux faire de l'organisation, tu peux avoir un bon discours, etc. Tu peux avoir une bonne vision, etc., etc. Oui, d'accord. Mais si ton objectif, c'est seulement les résultats, les gens, au bout d'un moment, vont chercher à savoir qui tu es. Et là, si tu n'as pas les valeurs de Dieu, les valeurs de caractère de Dieu, tu vas te retrouver avec des problèmes. Tu vas te retrouver au bout d'un moment coincé quelque part. Là, tu pourras chuter. Là, tu pourras t'enorgueillir. Là, tu pourras te retrouver dans des gros travers et des problèmes sérieux que tu auras générés. Parce que c'est vrai que tu auras le succès d'un côté, mais d'un autre côté, tu n'as pas les valeurs divines en toi. Et si tu n'as pas les valeurs divines en toi, tôt ou tard, tu vas creuser la tombe de ton leadership. Il faut les deux. Il faut absolument les deux. Donc, si tu veux attirer les meilleures personnes, tu ne dois pas te focaliser sur le résultat uniquement. Le but. Si c'est ça que tu recherches seulement, tu as tort. Cherche à être une excellente personne qui dirige et qui attire d'excellentes personnes. Ou qui fait devenir des gens, ou qui inspire des gens pour devenir d'excellentes personnes. Qui vont elles-mêmes produire aussi d'autres personnes qui seront excellentes. Si tu fais ça, c'est que tu as compris. Ça veut dire que tu vas avoir le côté où tu vas utiliser des lois spirituelles, ça c'est très bien, des lois organisationnelles, etc., etc. Mais aussi, tu vas travailler à l'intérieur de toi pour infuser les valeurs de caractère de Dieu. Et ça se travaille bien sûr dans la prière, ça se travaille dans le changement des mentalités. Numéro 5, cinquième grand et dernier principe avant notre pause. Notez qu'un leadership efficace commence en étant nous-mêmes. Un leadership efficace commence en étant nous-mêmes. Ça, c'est un problème chez beaucoup de leaders. Ils n'arrivent pas à être eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont projeter une image qui n'est pas vraiment eux-mêmes. Ils essayent d'être quelqu'un d'autre. Bon, c'est vrai, parfois nous avons des modèles que nous essayons d'imiter. En tant que leader, n'essaye pas d'imiter d'autres personnes. Sois toi-même. Que les gens voient réellement ce que tu es, quand tu t'exprimes, quand tu les diriges, qu'ils puissent dire vraiment, lui, on sait que s'il dit blanc, c'est blanc, s'il dit noir, c'est noir, s'il dit rouge, c'est rouge. C'est ce qu'il pense réellement et c'est ce qu'il vit réellement. Il y a beaucoup de leaders qui essayent de porter un masque. C'est très dangereux de faire ça. Particulièrement quand nous sommes des leaders qui dirigeons le peuple de Dieu. Vraiment, si tu apprends à être toi-même, à être transparent, les gens, peut-être qu'au début, ça ne va pas être très populaire, mais au moins les gens sauront à quoi ils s'attendent avec toi. Les gens qui cherchent toujours à masquer ce qu'ils sont, ce ne sont pas des gens que Dieu pourra bénir. Tu dois apprendre à être toi-même. Tu dois apprendre à ne pas imiter les autres. Tu peux t'en inspirer, c'est normal. Mais apprends à être toi-même. Ce n'est pas seulement des expressions que tu utilises. Ce n'est pas seulement, je dirais, des façons d'agir devant les autres qui est important. L'important, c'est que tout ce que tu fais soit le reflet réellement de ton cœur. Ça, il faut que tu l'apprennes. Il faut en fait que tu connectes ce que tu projettes comme image avec ce qui est réellement ton cœur. Si tu projettes une image différente que ce que tu es à l'intérieur, tôt ou tard, tu seras démasqué. Et crois-moi, ce jour-là, ça va faire mal. Apprends à être toi-même. Apprends à être toi-même. Il y a des gens parfois qui passent pour des gens super spirituels, et en fait, ils ne sont pas du tout super spirituels. Il y a des gens qui passent pour être très éloquents, ou très ceci, ou très cela. Il y a même des prédicateurs parfois qui répètent mot pour mot des livres entiers, et ils ne disent pas « cet enseignement vient de telle personne ». Ils essayent de s'attribuer, entre guillemets, de la gloire. Ça, ce n'est pas bon du tout. Là, l'enseignement que je vous fais, je le dis, c'est tiré de John Maxwell. Je n'ai pas de honte à le dire. Ce n'est pas moi qui ai inventé tout ça. Mais c'est tellement bon que ça fait du bien. Vous voyez, il ne faut pas avoir honte de tout ça. Il y a un bon nombre d'enseignements de Kenneth Hagin que je redonne, parce que j'ai été dans son école et j'ai appris beaucoup de choses. Et je sais que c'est la vérité, on ne va pas essayer de réinventer la roue ou l'eau chaude. Ça existe déjà. Il faut simplement donner le crédit à qui nous devons donner le crédit. Ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui essayent de masquer à chaque fois. On va dire, ah, c'était extraordinaire, vraiment quelle révélation. J'ai jeûné et prié pendant 40 jours, j'étais sur la montagne du Sinaï. Farceur. Ces gens ne vont pas aller loin, je vous le garantis. Ils ne vont pas loin. Alors, les différentes perceptions. Être soi-même, quand on parle d'être soi-même, bien sûr, c'est projeter une image. Donc les différentes perceptions qu'on doit considérer. Les différentes perceptions. Numéro 1, comment les autres nous voient. Comment les autres nous voient. C'est important que tu écoutes. Que tu écoutes tout ce qui revient de la part des autres. Les bonnes choses et les critiques aussi. Il y a des gens qui disent, ce que pensent les autres, je m'en fous. Il n'y a que le Seigneur qui me juge. Vous voyez, ils prennent un Corinthien. Paul en parle, mais pas de la même façon. C'est vrai que des fois, tu dois fermer la bouche et tu dois fermer tes oreilles à des critiques qui ne sont pas fondées. Ok, des gens qui déforment tes propos, il y en a. Mais il y a aussi des gens qui te diront des choses qui sont vraies. Et il faut les écouter. Les autres te voient à l'extérieur. Je te rappelle de la boîte, tu es le seul dans ce monde à te voir à l'intérieur de la boîte. Donc tu ne te vois pas te comporter. Il y a des gens qui te diront, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Et t'entends, tu dis, mais c'est vrai, je m'en suis même pas aperçu. Il ne faut pas dire, non, 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 je ne fais jamais ça, non, non, non. Je dis, si, 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 hop, tiens. Tiens, un jour, je me souviens, j'avais tendance, je ne sais pas pourquoi, à mettre sur la table, à la maison, des choses comme ça, et j'avais tendance à les jeter un peu violemment. Puis j'ai un de mes enfants qui m'a dit, mais papa, pourquoi à chaque fois que tu mets un plat sur la table, tu le mets ça un peu brusquement? Puis j'ai dit, non, 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 ce n'est pas vrai. Et puis, juste 5 minutes après, je suis arrivé de la cuisine vers la table, et j'ai fait ça. Il m'a dit, tu vois, c'est vrai. Vous voyez, des fois, bon, c'est flagrant. Mais il y a des fois, souvent, c'est comme ça. Il y a des fois des gens qui vont nous dire des choses qui sont vraies, que l'on fait, mais on ne s'en aperçoit même pas. Et des fois, c'est des choses graves. C'est des choses graves. Donc, le feedback des autres, c'est important. Comment les autres nous perçoivent. Ça, c'est un. Numéro deux, comment nous voulons que les autres nous voient. Comment nous voulons que les autres nous voient. Vous savez, les stars de ce monde passent leur temps à se donner une image, à projeter une image qui n'est pas la leur. Vous vous rappelez de ce chanteur Michael Jackson? À lui, c'était typique. Il essayait de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais cet homme est mort à un âge très peu avancé. Il avait 40 et quelques années, c'est ça, je crois? Du genre. 50, bon, il avait 50 ans. Pourtant, tout le monde l'adulait, c'est-à-dire, ils étaient là, les foules étaient, Michael Jackson. Et à l'intérieur, c'était un homme qui mourait. Pourquoi? Parce qu'il projetait une telle image de lui qui était complètement fausse. Les stars font ça. Tout ce qu'on nous montre à la télé, là, les Congolais, Quinois qui roulent des fesses, là, ils ne sont pas très heureux. Hein. Il n'y a qu'à Kinshasa qu'on fait ça. Hein. Je n'ai jamais vu dans aucun autre pays. Ah, les Quinois, vous êtes exceptionnels. Hein. Mais sérieusement, les gens veulent projeter une image qui est fausse, qui est complètement fausse. Ne fais pas ça, sois toi-même. Parce que ça prouve que tu es insécure. Plus tu essayes de faire croire aux autres quelque chose que tu n'es pas, ça prouve qu'il y a de l'insécurité en toi. Et c'est très mauvais. Un leader ne peut pas faire ça. Un leader qui joue à ça, c'est très mauvais pour lui. Maintenant, je ne vous dis pas qu'il faut déballer à tout le monde notre vie privée. On a une vie privée aussi, mais il faut faire attention. L'image que tu veux que les autres perçoivent de toi, qu'elle soit réelle. Numéro 3, comment nous nous voyons nous-mêmes? Comment nous nous voyons nous-mêmes? Ça aussi, c'est important en tant que leader, comment tu te vois. Il y a des leaders qui se voient mal, très mal, qui ont du mal, qui disent « non, je suis vraiment mauvais par rapport aux autres, etc. 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 » Ou alors, c'est l'orgueil total. Moi, c'est moi qui suis l'homme du moment. Moi. Fais gaffe à ça. C'est moi qui vais apporter le réveil et seulement moi. T'es sûr? On verra ça. Numéro 4, qui nous sommes réellement aux yeux de Dieu? Qui nous sommes réellement aux yeux de Dieu? Vous connaissez tous, comme vous êtes des assemblées de Dieu, le psaume 139. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève, etc. Psaume 139, on ne le regarde pas, mais c'est juste pour vous donner une référence. Et sachez une chose, Dieu sait exactement qui nous sommes. Tu n'as pas besoin de te cacher. Apprends seulement à changer. Ça, c'est la clé. Ne te cache pas. Mais apprends à changer. Regarde comment les autres te voient et écoute et prends ce qui est bon et change. N'essaye pas de projeter une image qui est fausse, mais projette une vraie image de toi-même. Maintenant, soigne-toi aussi. Parce qu'il y a des gens, ils donnent une image d'eux-mêmes qui est mauvaise. Et là aussi, il faut quand même faire attention. Quand tu es leader, particulièrement, même quand tu n'es pas leader, tu dois donner quand même une image de toi-même qui est bonne. Parce que tu es un enfant de Dieu, Le corps est le temple du Saint-Esprit, donc il faut que tu fasses attention.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.